Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité?
Eh bien, espérons encore quelques siècles et quelques années, quelques millénaires. Bon, bonjour à tous, donc on se retrouve dans les arènes de l'écologie. Alors aujourd'hui, on va parler de voitures et avec un invité
de marque.
Non, marque de voiture, non. Pas encore. Non, c'est Kilian Jorg, qui est on peut dire comme ça, un jeune philosophe autrichien.
Philosophe, artiste, activiste, oui.
Activiste,
mélange de trois. Oui.
Philosophe, activiste. Et de quoi va-t-il nous parler? Eh bien, il va nous parler d'auto, d'où le titre.
Autodestruction.
Autodestruction, d'où le titre. Accusé bagnole, levez-vous. Oui, donc parce qu'effectivement, c'est quand même un peu un pamphlet que tu nous as fait, Kilian.
Oui, c'est ça. J'essaie vraiment d'écrire notre relation au monde. Alors, nous, c'est toujours un concept un peu difficile. Je commence déjà
Un petit peu. Tu dis rapidement quelques idées.
Oui.
Parce qu'on va te retrouver tout à l'heure après les chroniques. Ouais. Mais bon, nos auditeurs en bouche ou en oreille. Quoi.
Oui, j'essaie de comprendre la voiture vraiment. Alors, la voiture ne m'intéresse pas trop comme une machine comme telle, mais c'était plutôt une prothèse qui nous force de prendre une relation à la planète qui est autodestructive. Et ça me fait beaucoup plaisir en fait qu'en français, l'autodestruction, c'est vraiment aussi la destruction de soi-même en fait, de self en français. Et ça, je trouve très intéressant de vraiment penser notre relation comme une relation particulière parce que quelque chose qui me rend triste est que Robin Wall Kimmerer, un philosophe amérindien, elle décrit comme tragédie moderne que les humains ne sont que capables d'envisager leur relation à l'environnement comme négatif.
Kilian. Donc effectivement, on a bien compris que tu ne vas pas nous annoncer que des bonnes nouvelles. D'ailleurs, tu n'as pas dû t'embêter qu'on annonce cette semaine à la radio que les chiffres de vente de voitures neuves étaient en baisse. Ça serait plutôt une bonne nouvelle pour toi, j'imagine.
Et les accidents en hausse.
Voilà. Ça. Les tragédies, on va y mettre un petit bémol. Et puis là, on va lancer la chronique de Théo, qui lui, pour le coup, nous prépare toujours la bonne nouvelle de la semaine. Allez, vas-y Théo, on en a besoin.
Bonsoir tout le monde, moi c'est Théo et ma mission de ce soir ça va être de vous donner le sourire avec des bonnes nouvelles parce que dans le monde anxiogène qui est le nôtre, ça fait toujours du bien. Et ce soir direction Amsterdam puisque la capitale des Pays-Bas a décidé d'interdire à partir du 1er mai 2026 toutes les publicités pour les énergies fossiles dans la ville. Alors Amsterdam est déjà connue pour être une ville ouvertement engagée dans ce combat écologique, elle porte notamment une politique fortement orientée vers les mobilités douces ou encore les énergies renouvelables. D'ailleurs à ce sujet, elle porte un engagement fort de neutralité carbone d'ici 2050. Bref, tout ça pour dire que la ville est déjà considérée comme un modèle de gestion environnementale, mais en ce début d'année 2026, elle s'attaque à un tout autre secteur, celui de l'imaginaire des consommateurs, à savoir nous. Parce que cette mesure, concrètement, ça veut dire plus de publicité pour les compagnies aériennes, pour les croisières ou encore pour les voitures thermiques. Alors certains diront que c'est un peu radical comme mesure d'interdire des publicités, mais en réalité, s'attaquer à cet imaginaire commun, c'est un point essentiel si on veut opérer une vraie transition de nos sociétés. Parce qu'on peut se dire ce qu'on veut, mais on est forcément influencé par les publicités. Et même si on va pas se dire immédiatement dans notre canapé qu'on va acheter un produit simplement parce qu'on vient de le voir passer, inconsciemment, ces pubs, elles permettent de normaliser des pratiques, des noms d'entreprises, des produits ou des messages. Par exemple, au bout du compte, la plupart des gens associent le parfum à un produit de luxe, simplement parce que les publicités les mettent en scène avec une star de cinéma dans la galerie de Versailles. C'est un peu caricatural, mais l'idée est quand même là. Alors s'attaquer à cet imaginaire, comme le fait la ville d'Amsterdam, c'est super important, et c'est peut-être là, finalement, que repose la clé d'une transition profonde de nos sociétés dans l'imaginaire qu'on s'en fait. Aujourd'hui, certains aspects de notre société sont tellement ancrés dans dans cet imaginaire commun que ça nous paraît impensable de faire sans, et pourtant c'est qu'une histoire de projection. Si demain l'entièreté des publicités consacrées aux énergies fossiles était remplacée par des pubs dédiées à la transition écologique, on peut facilement imaginer que ça influerait fortement les comportements, au moins à terme. En tout cas, pour revenir à notre bonne nouvelle, si vous allez à Amsterdam à partir du 1er mai, vous ne verrez plus de publicité pour les avions, les voitures ou les croisières, et ça c'est une bonne nouvelle pour notre imaginaire et pour l'environnement. Sur ce, je vous dis bonne soirée et à la semaine prochaine.
Eh bien, merci Théo. Bah, écoute, je ne sais pas si tu avais bien préparé ta chronique, mais tu tombes à pic, puisqu'effectivement, ce n'est pas Kylian qui va te contredire que la voiture ficelle nos imaginaires et nous empêche de penser. Mais justement, en parlant d'imaginaire, j'ai tout autre chose à vous proposer. Alors, c'est quelqu'un qui, justement... construit de nouveaux imaginaires, puisque Nicolas Langlois est venu pour nous présenter le Festival du film de l'environnement, et cette année, donc c'est la 8e édition, ça se tient à Chatou, hein, pour tous ceux qui aiment prendre peuvent se déplacer, c'est simple, hein, prenez le RER A, direction l'ouest, hein, pas
Saint-Germain.
Voilà, pas Saint-Germain, pas chez Mickey, quoi. Et donc, vous descendez à la station Chatou, et puis tu m'as dit que le salon, le festival était visible dès la sortie du RER, quoi.
Oui, tout à fait. Le cinéma, il est au pied du RER. Donc,
bon, c'est 20 minutes depuis Châtelet. Franchement, c'est bien le Grand Paris, quand même. Alors, je raconte tout, Nicolas. Qu'est-ce qu'il y a cette année dans cette 8e édition du Festival du film pour l'environnement.
Alors bonjour François, bonjour les auditeurs. Cette année, on projette 14 films sur différentes thématiques. Ça va être sur l'eau, ça va être sur l'agriculture, ça va être sur les glaciers, une nouvelle façon de voyager, ça va être sur le vivant, ça va être sur les feuilles aussi, enfin beaucoup de sujets. Sur le plastique aussi, un grand film sur le plastique. Et la particularité du festival, c'est qu'en plus des projections, à la fin, il y a un ciné-débat avec des intervenants. Donc ça va être des protagonistes, ça va être les réalisateurs.
Ces débats, ça dure combien de temps
ça dure une demi-heure, 45 minutes.
D'accord.
Donc ça va permettre au public d'approfondir, donc soit de poser des questions par rapport au film, si les réalisateurs, ça tombe bien, ou soit approfondir au niveau scientifique, par exemple avec le plastique, c'est une personne de l'INRAE qui va venir, et donc elle va apporter des éléments supplémentaires par rapport au film. Donc c'est vraiment une interaction avec le public, c'est ce qu'on veut en plus du film. D'avoir cette dimension supplémentaire.
Alors, dis-moi, comment vous sélectionnez les films tâtons préférés comment ça se fabrique un festival?
Alors, comment ça se fabrique? On visionne beaucoup de films. Au préalable, on a au moins deux personnes qui visionnent les films. Après, on a un débat par rapport au sujet. On essaie de choisir des films qui sont relativement positifs, qui donnent envie aux gens d'agir, parce qu'en fait, l'objectif du festival, c'est de donner de l'énergie positive, donner aux gens d'agir en comprenant les enjeux. Quelquefois, il y a quelques films qui sont un petit peu plombants, mais parce qu'on doit passer par là. Mais voilà, et on a un débat et on choisit des thématiques différentes. Donc, tout au long du festival, il y a des thématiques différentes. Et on fait un choix par rapport à l'intérêt. Et qu'on veut.
Donc, ça dure toute une semaine, du 11 au 17.
Voilà, exactement, tous les soirs.
Ah, donc, ça commence un mercredi.
Ça commence un mercredi. Tous les soirs, il y a une projection. Et le week-end, il y a des projections aussi dans la journée, plus orientées famille, avec des films et des documentaires pour les plus jeunes.
Alors, comment on fait? Faut s'inscrire, faut réserver sa place, la billetterie, il y a un site internet, .fr, quelque chose?
Exactement, il y a un site internet, hein, c'est www.forum, tout attaché avec projet derrière, avec un S, dd comme développement durable.org. Donc, il y a tout le programme qui est disponible. Et on peut réserver directement, donc les places sur la plateforme, ça va sur la plateforme du cinéma. Et on a aussi un concert et une conférence où là on a une billetterie dédiée.
D'accord, alors donc raconte-nous, puisque c'est un concert végétal, ça, c'est la musique végétale, franchement, Ces écologistes nous surprendront toujours.
Ouais, et donc, alors, c'est deux musiciens qui font de la musique expérimentale. Donc, dès qu'ils trouvent quelque chose dans la nature, ils étudient comment faire de la musique avec. Donc, ils prennent un tronc, ils mettent un micro dedans, et puis ils voient, en termes de percussions, ils prennent des bouts de bois de différentes longueurs, et puis ils font pareil, des percussions, ils prennent des noix, ils prennent des feuilles, ils prennent des brindilles. Et donc, derrière...
C'est de la musique craquante, quoi.
Il n'y a pas que craquante, hein. Il y a beaucoup de percussions. Et derrière, il y a des instruments, enfin, il y a des outils un peu plus contemporains pour rendre tout ça harmonieux. Et donc, c'est vraiment une découverte de sons qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Il y aura aussi en arrière-fond des sons d'oiseaux qu'ils ont enregistrés, puisqu'ils enregistrent beaucoup de sons dans la nature. Et donc voilà, ça va être un univers où les gens vont être transportés. Et le festival, ça va être beaucoup du visuel. Ça va
vraiment du sonore. Ce concert, je regarde, il ne faut pas que je me trompe, parce que naturellement... Donc c'est le samedi 14 février à 18h à la salle cinéma Louis Jouvet à Chatou, donc à côté du RERA.
Ouais, exactement, ouais. Exactement. Et c'est accessible à tout le monde, aux plus jeunes. Il n'y a pas de souci, tout âge.
Et puis les places pour le festival, c'est combien ?
Alors il y a un tarif préférentiel, c'est toutes les séances sont à 6€.
D'accord.
Et la particularité du concert et donc de la conférence, c'est que c'est en participation libre, donc les gens donnent ce qu'ils veulent en fonction de leur intérêt.
C'est comme on dit, au paiement au chapeau, quoi.
Voilà, paiement au chapeau. Donc s'ils sont contents, ben ils donnent ce.
Parfait. Puis bon, c'est aussi en fonction des moyens de chacun.
Exactement.
Alors bon, bah, moi je vais naturellement aussi vous donner, chers auditeurs d'Aligre FM, je vais vous donner les nouvelles de Roquelaure, puisque vous les attendez toutes. J'ai plutôt trouvé l'agenda de Madame Monique Barbu plutôt intéressant cette semaine. Alors ça a commencé avec Adeline Lescane et puis également Claire Fehrenbach, qui, je ne le savais pas, et sont toutes deux des personnes engagées dans l'aide humanitaire et l'aide alimentaire internationale, notamment sur le groupe Nutricet. Donc effectivement, ça veut dire que le ministère de la transition écologique se préoccupe aussi de solidarité internationale alimentaire. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors naturellement, il y a eu, tout le monde le sait maintenant, autour de cette table, Madame la ministre a fait un discours d'ouverture du lancement de la Journée mondiale des zones humides, dans le cadre du 40e anniversaire de la ratification par la France de la Convention Ramsar. Alors, Ramsar, chacun le devine, c'est pas un acronyme, non, c'est le nom d'une ville iranienne où cette convention a été signée en 1971. Et j'ai fait mon petit calcul, 2026-71, ça fait pas 40 ans. En fait, la France avait 15 ans de retard pour signer la convention Ramsar. Bon, heureusement, les choses ont changé. Et puis, c'est pas Madame Barbu, qui est une ancienne spécialiste, donc qui est toujours une spécialiste de la biodiversité, qui boudera son plaisir que la France ait pu signer cette convention. Rendez-vous avec Clément Beaune, le haut commissaire au plan. Bon, on verra bien ce qu'ils peuvent se dire. Un rendez-vous avec Sylvie Lemet, ancienne ambassadrice déléguée à l'environnement, spécialiste de santé et environnement. Bon, donc ça, je me dis qu'on est en train de préparer le One Health Summit qui se tiendra en avril, le 7 avril pour être précis, à Lyon. Mais bon, on ira mettre notre nez sur ce sujet. Bon, après, effectivement, c'est poursuivi avec le ministère de la Santé, donc effectivement, rencontre entre collègues. C'était l'occasion de mettre à l'honneur aussi une personne, monsieur Jean-Michel Severino, ancien directeur général de l'Agence française du développement, donc tout le retour avec... En cohérence avec le premier rendez-vous de la semaine, avec la solidarité internationale. Et puis, bon, après, aujourd'hui, c'était journée de travail, conseil des ministres, réunion avec Catherine Chabot et Mathieu Lefebvre, rien que de très normal. Demain, ce sera départ pour Chypre, non pas pour les vacances, mais parce que c'est à Chypre que se tient le conseil informel dont le Conseil de l'Union européenne environnement à Chypre. Donc, et puis, bah, pendant ce temps-là, au cabinet, on briefera la presse à propos de la troisième stratégie nationale bas carbone, appelée joliment SNBC3. Bon, j'irai y faire un tour et promis, on vous débriefera tout ça la semaine prochaine. Bon, bah, écoutez, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Après la musique, on retrouve Kylian et son livre Autodestruction, dont on meurt d'envie d'en connaître un peu plus, hein, n'est-ce pas Ben ?
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Tu sais pourquoi Chiro est appelé l'immortel ? Parce qu'il y a eu trois guerres et personne n'a réussi à la battre. Il avait seulement 21 jours quand un tremblement de terre a tué ses parents. Sur les 30 habitants de l'immeuble, Chiro est le seul à être resté en vie.
Il a fini criblé de balles, il se prenait trop pour Chiro. Je suis défoncé, je compte une cale et je me suis mangé un coup de Giro. Des sommes astronomiques, y'a de quoi on perd la tête. Nous l'argent salon la nique, on fait comme le petit qui guette. Y'a des glocks et des balles, j'envoie chercher des boîtes, mais le petit n'a pas de permis. Je suis dérangé, on t'éclate, brûle ton corps dans les bois, c'est Marseille, pas la Serbie. L'Asie tourne à plein régime, donc ça fait maigrir les concurrents. Trafic de résine, les saisies, les contrôles sont récurrents. 3-0-0-3, le convoi te laissera en croix. Je suis pas mon hub et mon droit. Tu vas mourir si t'es ma proie. Je vois les junkies qui défilent. Je suis dégoûté quand y'a père. La petite se fait des fils. Elle va pas rentrer dans ma tête. C'est des salopes, si tu meurs pas, tu seras paralysé. J'ai compté escalope, escalope, c'est devenu une banalité. J'ai même pas comme. L'Asie pète, arrive des îles dans des conteneurs et le taux de pureté est élevé. Tu pars sans s'agir, on va te niquer la compte, ta mère, ta bouche finira par te tuer. On a des petits qui tabassent, cagoulés, paires de gants. T'es des tifous, les ralasses, je veux pas que sorte les dents. Ça lui a enlevé la vie, mais il était censé se marrer. Ça a creusé sa femme en boîte, elle faisait la pétasse dans le carré. 3-0-0-3, le convoi te laissera en croix.
Eh bien, nous voici de retour dans les arènes de l'écologie. Armand, tu vas nous dire qui était cet auteur, ce chanteur.
Il s'appelle Lagui.
Tu peux nous appeler ça ?
Lagui, L-A-G-U-I.
D'accord, parfait, merci beaucoup. Alors, nous voici revenus avec Kylian Jorg, donc notre philosophe activiste, artiste viennois. Alors, qu'est-ce qui t'a donné cette idée de faire un livre sur la voiture, qu'on nous, ici en France, on appelle, quand on est un petit peu péjoratif, on appelle ça la bagnole. Je ne sais pas si ça vous parle en Allemagne.
Oui, clairement. Je crois qu'il y a trois raisons. Alors, la première raison, c'est la raison la plus personnelle, c'est un conflit oedipal avec mon père. parce que mon père, il était journaliste sur les voitures. Alors, d'accord. Il n'a que écrit sur les voitures et... Alors, on appelle ça journalisme, mais c'est vraiment juste. Alors, tu as une voiture pour 2 semaines, tu es payé pour le conduire, après tu écris quelque chose que, ah, cette bagnole-là, c'est super magnifique, il faut l'acheter. Et ça s'appelle le journalisme. Et oui, alors, quand mon père a vraiment veux toujours le plus nouveau modèle de Porsche, de toute cette bagnole de merde, disons. je connais très bien comme enfant, c'était super d'être amené à l'école avec une Porsche. Et tous mes amis ont me regardé comme « waouh, le mec » et tout ça. Alors, je connais aussi cet amour pour la voiture.
Fascination.
La fascination, aussi le statut social, oui, particulièrement si on est socialisé comme masculin, comme j'étais socialisé, que c'est vraiment une chose à déconstruire en fait. Et alors comme je suis devenu plus en plus gauchiste et critique, et aussi j'ai essayé de me éloigner de mon genre de base, c'est un travail aussi très, très clé, je crois, pour un peu aussi déconstruire la relation moderne
dans le roman. C'est presque une psychanalyse pour toi, parler de l'autodestruction de la voiture. Donc
oui,
c'est aussi l'autodestruction du père et de l'autorité ou d'un modèle.
Oui, absolument ça. Et ça, c'est vraiment cette question qu'on a déjà engagée dans le intron, que c'est vraiment le propre soi, le self en anglais, que c'est aussi vraiment une analyse de ça. Et comme je viens de dire, il ne m'intéresse pas cette machine-là. Mais
t'es pas un mécanicien, clairement.
Et aussi, je crois que si on se concentrait juste à la machine, l'optimiser, alors disons, il faut maintenant acheter des voitures électriques et pas combustion, c'est pas assez, mais c'est vraiment n'importe comment est-ce que c'est la voiture, ça produit une relation à l'environnement. Je vais même loin pour dire que ça produit la nature. Comme ça, comme oui, ça, quelque chose extériorisé.
Ça, effectivement, c'est une des parties très intéressantes du livre. C'est comme quoi le rapport à la voiture aura été un petit peu structuré, le rapport, y compris à la nature de notre civilisation. Moi, c'est ça qui m'a très intéressé dans ton livre, c'est cet approfondissement du champ de vision, parce que souvent, y compris les gens qui sont critiques à l'égard de la voiture, ce qui peut se mélanger avec une certaine fascination de la technique, hein, je ne vous le cache pas. Ça m'arrive même de regarder Automoto le dimanche matin au lieu de regarder la messe. Mais ça peut être contradictoire, mais moi je parlais plutôt de dictature de la voiture. Et quand j'écrivais sur certains sujets, et j'ai trouvé une résonance dans ton livre qui était assez passionnante et assez bien vue. Tu nous dis pas uniquement que la voiture ça pollue, que ça tue, tu nous dis bien plus de choses sur son rapport avec l'homme et la société. Donc Ben, qu'est-ce que...
Oui, moi je trouve passionnant et j'ai appris beaucoup de choses. Et notamment sur cette... Bon, ça fait un peu psy, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de relation toxique que nous avons avec cet objet.
Ah bah ça, carrément addictif, c'est ça qui est
bien analysé, je trouve.
Oui.
Et là où ça m'a intéressé, c'est aussi qu'il y a deux dimensions dedans. Les deux dimensions, il y a d'une part le fait que c'est éminemment politique comme sujet. C'est pas un problème de transport.
Ouais.
C'est vraiment quelque chose de politique.
Même ontologique, je dirais.
Ouais.
Plus profond que ça.
Le mot des philosophes à la mode, je cherche à chaque fois ce que ça veut dire dans le dictionnaire parce que j'ai du mal à concevoir ce terme.
L'ordre de être.
Oui, c'est ça. C'est l'essentiel, quoi. Bon.
Ouais, ouais, ouais. Alors, il y a un deuxième élément que je trouve aussi très intéressant, c'est ce lien qu'on peut faire et qu'on doit faire peut-être avec la vitesse. La dictature de la vitesse, comme disait François, et en même temps le fascisme. Mmh. Et je trouve ça très intéressant d'arriver à mettre ça ensemble. Moi, j'ai eu comme l'un de mes profs, c'était Paul Virilio, et donc j'ai aussi beaucoup appris sur ce lien qu'il y avait entre ce que lui appelle aussi l'état d'exception et le hors-limite. Qui se retrouve effectivement dans l'histoire de cette vitesse qui est une vitesse fasciste. Donc j'ai appris plein de choses, pas seulement sur les chiffres de la destruction, mais je me suis aussi rendu compte récemment que en matière justement du comble de la voiture, c'est celle qu'on est en train maintenant de nous proposer, qui serait le successeur de la voiture à combustible et qui représente tout autant de délire en termes d'extractivisme
en termes d'extraction et d'extorsion de...
Mais on va peut-être laisser parler notre invité, Ben, maintenant. D'accord. Vous avez une question peut-être précise?
Oui, j'ai plein de questions.
Ouais, c'est ça,
il y en a une, par exemple, je n'étais pas du tout au courant, c'est par exemple le scénario qui a été proposé par l'intermédiaire de l'Institut Momentum sur, au fond, cette extrapolation sur 2050. Mmh. Et qu'est-ce que ça voudrait dire?
Alors peut-être qu'on va expliquer.
Ça m'intéresse. Ouais.
Tu peux nous remettre en situation parce que je...
Absolument, oui. Ce sont deux camarades, je dirais. En fait, je viens de présenter mon livre là-bas le samedi, en fait, à l'Institut Momentum.
Et ils ont alors, qu'est-ce que c'est que cet Institut Momentum?
C'est une think tank d'écologie, collapsologie, prêt à la collapsologie et des choses comme ça, qui pense vraiment aussi dans une tradition biorégionaliste, disons, de comment changer notre relation au territoire dans une façon qui est plus soustenable.
D'accord. Donc c'est un think tank, bon, j'imagine, en Allemagne, en Autriche.
Non, c'est à Paris. À Paris rue Saint-Sabin, dans le 11e.
Oui.
Et ça a été plus ou moins l'instigateur, ou les instigateurs, c'est Yves Cochet.
Oui, et Agnès Sinaï aussi.
Et Agnès Sinaï, effectivement.
Oui, ils ont fait cette étude qui était financée par la SNCF, qui s'appelle... Comme livre, c'était publié comme Le Grand Paris après l'effondrement, où il se vraiment demande comment est-ce qu'on peut vivre, survivre, mais vivre aussi mieux que juste dans la catastrophe, dans la région Île-de-France. Et c'était vraiment du base la question sans voiture, mais on est très vite arrivé à, alors il faut se libérer de la voiture pour avoir une façon de vivre plus écolo. Et il montre bien que ça ne sert pas que de créer plus de rues bicyclables et tout ça, mais c'est toute notre idée de qu'est-ce que c'est le travail, qu'est-ce que c'est une relation de genre, qu'est-ce que c'est la famille, qu'est-ce que c'est la production, qu'il faut changer d'une façon féministe aussi. Et je trouve ça très intéressant parce que je crois... C'est ça la raison pourquoi j'ai insisté que c'est ontologique et pas que politique, que c'est aussi une question de changer notre... façon de production, de notre façon de genre et tout ça. Ouais. Et en fait, un détail intéressant, que cette étude était même plus élargie par une fondation qui s'appelle Forum Vie Mobile, qui ont vraiment fait de plans assez technocrates, comment libérer la France de la voiture. Et aussi, c'était financé par les moyens publics et ils ont présenté leur plan le septembre, ici à Paris. Il y avait même l'ancien ministre d'énergie qui était là. Et c'était vraiment fou pour moi qu'en France, on parle de vraiment une libération totale de la voiture à une échelle où les politiciens institutionnels viennent et disent « Ah oui, c'est une bonne idée. »
Alors j'ai une question. Est-ce qu'il y a d'autres pays où il y a ce genre de travail de prospective? Par exemple, je pense à des pays comme ceux qui ont un ministère du futur, dont la Suède, la Corée du Sud, etc. Est-ce qu'il y a ce genre de recherche prospective sur justement une société qui aurait réussi à se débarrasser de la voiture, de la bagnole?
Oui, alors le monde est trop grand pour vraiment parler globalement pour le monde, mais en Europe, je ne connais rien qui fait cette recherche à la même échelle. Et comme je viens de la sphère germanophone, qui est un peu la dictature d'automobilisme, le lobbyisme là-bas, et vraiment le lobbyisme automobile. Alors là, ça me semble vraiment impossible. Je sais, comme aussi, je crois, les pays scandinaviens sont un peu dans la même zone d'influence. Je ne crois pas. L'Europe d'Est, c'est autre chose, je crois, mais aussi, ce n'est pas très probable. Alors je crois que c'est quelque chose assez unique. Au moins en Europe, je crois en États-Unis, c'est impensable parce qu'on a détruit tous les autres moyens de transport.
Tu publies une carte extrêmement significative qui montre justement la destruction du réseau ferré aux USA durant le siècle de la voiture. C'est monstrueux, quoi.
Parce que c'est quelque chose qu'on oublie souvent, que avant d'être une paix de voiture, c'était une paix de train, en fait. C'était
Los Angeles, ouais, tu en parles. Ouais,
Los Angeles a eu le plus grand réseau de transport public, même dans les années 30. Alors, ça fait pas longtemps, en fait. C'était détruit par une monopole des entreprises de producteurs de voitures, comme Chrysler, comme Ford, comme GM.
Ça, c'était pratiquement, quand on parle de dictature de la voiture, quand je parle de dictature de la voiture, je pense que j'avais bien trouvé le titre, parce que c'est vraiment c'est ça qui est passionnant, c'est de voir à quel point, comme tu le décris, la voiture a réussi à formater notre société d'une manière que même si on est critique sur ce sujet-là, on peut ignorer. Quoi. C'est pour ça que j'encourage les gens à lire ton bouquin. Parce que c'est
Aligre FM 93.1.
C'est un peu une révélation, c'est de voir comment tout ça s'est imbriqué pour nous amener dans une espèce de mono-modèle, et puis qu'on veut imposer aujourd'hui en Afrique.
J'utilise cette mot de homogénosène comme l'anthropocène, Alors, je crois que le problème de l'anthropocène, c'est vraiment un problème de homogénéisation, que la façon de vivre, ou des humains, mais aussi des non-humains, sont de plus en plus homogénéisés. Et je crois que la voiture est vraiment une machine qui a vraiment forcé cette tendance à homogénéiser notre désir aussi. Ce n'est pas que la façon de vivre, mais aussi qu'est-ce qu'on rêve d'arriver dans la vie et tout ça.
C'est vrai. Ouais. C'est vrai que c'est plus que la montre maintenant, ça fait partie des...
Est-ce
que tu as réussi ta vie?
C'est une machine de subjectivation, en fait.
C'est passionnant. Et puis, tu parles aussi des morts, des victimes non reconnues de cette histoire, et qui sont, je crois que tu le dis même à un moment donné dans ton livre, c'est qu'il y a plus de victimes de l'industrie automobile
que de tous les conflits
que les États-Unis ont menés à travers le monde. C'est quand même intéressant d'avoir ce genre de statistiques.
Ouais. Alors bon, c'est vrai que c'était...
C'est une comparaison difficile, mais oui.
Puis tu l'avais limité, je dirais, en Angleterre, me semble-t-il, et puis à une certaine période. Mais en tout cas,
les États-Unis.
Qu'est-ce que c'est assez intéressant que les chiffres sont en train de devenir moins en moins, en fait, parce qu'ils avaient tué plus en plus. Alors, c'est même les animaux, comme le renard, sont plus habitués maintenant. Mais ça montre encore cette machine de subjectivisation c'est un danger qu'on est tellement accoutumé d'intégrer dans notre vie quotidienne. Qu'est-ce que ça fait avec notre perception du monde? Parce que je crois qu'on est vraiment forcé d'apercevoir juste le monde par l'information visuelle. Alors, on ne peut pas sentir, par exemple, parce qu'on devient fou dans la ville si on sent. Et aussi, les bruits, c'est tellement beaucoup. Alors que moi, je m'intéresse beaucoup pour la corporalité, pour la sensualité aussi, et comme aussi c'est une façon de limiter notre sensualité, comme par exemple la plupart des animaux a comme sens principal le parfum, le sentent. Nous sommes presque rendus incapables de sentir dans notre ville. Peut-être que vous connaissez quand vous êtes dans une forêt pour quelques heures, et après vous retournez à un parking, et la première voiture, ça sent vraiment, vraiment forte. Et maintenant, à Paris, je ne me souviens pas d'arriver, de venir ici, que j'ai senti une voiture, en fait. Parce que ça me rend triste, parce que je crois que ça, c'est vraiment une symptôme qui peut nous montrer pourquoi on est tellement incapable de répondre à la crise écologique. Parce que si on n'est même pas capable de sentir les voitures dans la rue, ça montre déjà quelque chose.
Je te propose un autre jeu de mots. En fait, la voiture, ça nous lobotomise un peu. Ça nous coupe des sens. C'est ça ça coupe une partie de notre humanité, quoi.
Oui, ça produit aussi une certaine façon de comprendre le monde, mais c'est juste très homogénéisé, je dirais. Alors, je suis Foucauldien de base, alors je crois que la pouvoir a plutôt un aspect de production et pas de lobotomiser, de détruire, parce que ça serait presque trop facile à critiquer, parce que ça aussi, ça produit la voiture. Tout le monde aime la voiture et on est un peu forcé d'aimer la voiture.
C'est vrai que ça va être très difficile de se désintoxiquer, faut bien le reconnaître.
Oui, je pense que ça, c'est intéressant, le ressenti aussi, et cette espèce de fascination qu'il y a aussi. Et d'ailleurs, tu fais un lien avec, par exemple, des pulsions et la sexualité, etc. Et on retrouve ça dans le monde militaire, où on, quand on parle d'une femme, on dit une bombe. C'est quand même très, très intéressant.
Oui.
Et on a exactement la même fascination devant la puissance que représente, par exemple, la Porsche.
Oui,
tu parles bien.
Et c'est aussi un moment clé d'un esprit fasciste qu'on peut décrire depuis le futuriste. Mais aujourd'hui, dans le backlash écolo qu'on voit, spécialement en Allemagne, mais aussi ici, c'était vraiment alors les écolos veulent prendre notre voiture. Et aussi cette identification avec la machine, qu'est-ce que Kara Daggett appelle la pétromasculinité, ça c'est vraiment une chose qui est mise en cause chaque jour. Et ça produit une certaine subjectivité masculine qui est prête à se défendre, qui préfère être en relation mécaniste avec le monde que d'une façon plus organique.
Mais en fait, quand tu parles de pétromachisme, bon, effectivement, on peut aussi parler de pétrofasciste. On a déjà utilisé ce néologisme. Mais pour la voiture, l'électricité ne va pas changer grand-chose au comportement, à ce type de comportement. La voiture électrique ne va pas devenir plus mignonne et plus respectueuse de la diversité. Elle risque de tuer autant de gens dans les rues. Et puis dans les rues, c'était ça aussi qui était intéressant. C'est que dans une des parties de ton livre, tu expliques comment la voiture a chassé les utilisateurs de l'espace public et commun pour s'accaparer l'espace. Et d'ailleurs, tu te sortais un chiffre, mais bon, je crois qu'on va envoyer notre petite musique et puis on va rechercher ce chiffre dans le livre, comme quoi la voiture occupe beaucoup plus d'espace qu'un humain. Mais on va écouter après la musique. Donc.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Even the fuss, but the face on your boy casts a darker picture of the red-handed act. He's gonna whisper, "Love, blood, I'm sorry, 'cause I know you got my back." He was running, I couldn't think, I had to get out of that. Not long ago, you were miming to the shook ones. Now this really is part two, 'cause you're the shook one. Hands in the tool as you question your friendship as men. Like you're gonna make me a convict, devil of a fella when I've done nothing wrong. Blood on my hands, but I don't know where it's from. No, you got blood on your hands, but you don't know where it's from. No, so you better run when you hear the sirens coming. Oh, you better run when you hear the sirens coming.
Eh bien, nous voici de retour dans les arènes de l'écologie sur Aligre FM avec Kylian Jorg qui nous présente son livre Autodestruction. Mais avant cela, Armand va naturellement va nous désannoncer sa musique.
Elle s'appelle Georgia Smith, Blue Light.
Super. Bon, alors, Kylian, donc on en était à l'accaparement de l'espace public par la voiture. On a essayé, chers auditeurs, de retrouver le chiffre dans le livre, mais on n'a pas retrouvé exactement celui qu'on cherchait. Néanmoins, ce qui est...
Alors, en comparaison que j'ai bien aimé, en fait, ça parle pour l'Allemagne, je ne sais pas si c'est exactement le même pour Paris ou pour France, mais qu'une chambre pour un enfant, c'est environ 5 fois plus cher qu'un parking de même taille dans la rue, en fait. Et ça, je trouve super intéressant parce que c'est beaucoup plus facile de stocker la chambre que la voiture, en fait. Mais quand même, ça montre un peu notre double échelle entre les enfants. Tout le monde veut des enfants, mais c'est même plus cher que
d'avoir une chambre. Mais on subventionne plus, on va être plus payé, investir dans l'espace pour la voiture que pour les gens. C'est ça qu'on peut dire, si je comprends bien.
Oui, c'est ça. Oui. Et les moyens publics sont invisibilisés. Alors, on pense toujours, ou ça, c'est une plainte qui est faite très souvent par les politiciens politiques, que le conducteur de voiture paie trop. Mais en fait, c'est juste une troisième part du coût total que la voiture cause à la société qui est payée par le conducteur propre. Le reste est payé par la société, en fait. Et c'est beaucoup plus cher.
Non, mais moi, j'aime bien cette comparaison. Parce qu'il y a aussi un côté un peu scandaleux. Par exemple, quand tu nous expliques que les voitures, au fond, constituent davantage un processus de destruction que les chars, les tanks, ça m'a un peu contrarié. Et d'ailleurs,
parce que Ben est un peu spécialiste des questions militaires, mais quand il ne fait pas d'écologie.
En France, c'est très intéressant, il y a très très peu de gens qui font ce lien avec la question militaire, justement, ou la question de la militarisation. Ouais. Sauf René Dumont, qui était l'un de nos pères de l'écologie, et qui, chaque fois qu'on parlait de devoir se débarrasser des voitures, il ajoutait toujours « et les chars ». Et c'est très marrant, parce que c'est une de ces contradictions-là.
Oui, et même en Allemagne, où c'était vraiment un moment clé de la remilitarisation après le contrat de Versailles, alors les nazis ont été... On n'a pas eu le droit de construire des tanks et tout ça. Ouais. Alors, on a fait des usines de voitures et, grand surprise, c'était aussi un bon moyen de construire des tanks et des autres machines de guerre après.
Les grandes entreprises françaises comme Renault et les autres, ils ont réussi à faire.
Ils ont fait des petits tanks. Hein.
Oui, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris moi-même dans la recherche que. Alors, on dit que la voiture et les nazis sont très liés, mais je crois même, alors mon thèse maintenant, c'est que sans la période fasciste, on ne serait pas aussi concentré à la voiture en toute l'Europe, pas que Allemagne ou Italie.
Ça, tu l'expliques dans ton livre. L'expliques aussi, c'est vrai.
Oui, et ça, c'est vraiment important parce que il faut vraiment
c'est
souligner...
Ce n'est pas une idée, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand même, c'est une démonstration. Tu as fait des recherches historiques, ce n'est pas simplement une opinion, quoi.
Non, parce que je trouve normalement l'histoire de l'introduction de voitures est beaucoup trop simpliste. On dit toujours alors la voiture a été inventée par un mec comme Carl Benz ou je sais qui, et après tout le monde a aimé les voitures et on a acheté, et c'est ça pourquoi on est là maintenant. Et c'est pas du tout juste. Et quand je fais la recherche, on trouve vraiment beaucoup de témoignages des années 10, 20, 30 même, où il y a vraiment de rébellions fortes contre la voiture, même à tuer le conducteur de voiture. Alors on a mis une file de fer
pour le décapiter.
Pour le décapiter et tout ça. Alors c'était vraiment, vraiment radical. Et alors, c'était pas tous les gens qui ont aimé la voiture. Et même dans les années 30, par exemple, en Allemagne, il y avait que 0,2% des personnes qui ont, eux, une voiture. Alors, dans une démocratie, c'était pas possible de construire l'infrastructure pour la voiture. Parce que c'est, la voiture, c'est, en effet, c'est comme le train. Sans infrastructure, ça, ce n'est pas très utile, en fait. c'est juste la propagande qui nous fait penser que la voiture marche très bien dans le désert, sans rien. Non, il faut des autoroutes, il faut des stations de pétrole et tout ça. Il faut quelqu'un qui construit ça. Et dans un pays démocratique où il n'y a qu'une très petite part de la société qui a une voiture, ça ne va jamais se faire, en fait, parce qu'il y avait déjà des systèmes de train mieux qu'aujourd'hui, en fait. Alors, c'était que des dictatures fascistes qui ont vraiment osé de construire des systèmes autoroutiers.
Mais parce que c'était très important aussi, on prend par exemple des analystes de l'Anthropocène comme Fressos et compagnie, et qui expliquent très très bien qu'on avait besoin à un moment donné des autobahnes pour pouvoir véhiculer le plus vite possible et pouvoir accéder à tel ou tel endroit, tel ou tel espace. Et donc, il nous fallait aussi, à un moment donné, pour la circulation de la production, il fallait avoir des grandes autoroutes.
Oui, et cette production et l'économie derrière, c'est vraiment une économie de guerre qui était juste instaurée par la Deuxième Guerre mondiale.
Ouais.
Parce qu'avant, il n'y avait pas le désir d'un capitalisme consumériste comme tel.
Oui, mais c'est vrai. Parce que, bon, ceci étant, il y a la voiture avec un moteur et quatre roues. Bon, c'est une chose, c'est un objet. C'est, ça a longtemps été des autobus, ça a longtemps été des voitures collectives. C'était effectivement un signe extérieur de richesse pour une minorité dont tu viens de parler, mais pour... Dans l'avant-guerre, c'est vrai que l'automobile, c'était l'autobus, quoi, y compris en campagne. Par contre, ce que tu expliques, qui est assez intéressant, c'est que la montée, je dirais, cette montée de la voiture était ce concept de voiture individuelle. Et si j'ai bien compris ce que tu nous expliquais dans ton livre, c'était aussi une manière de avec l'industrie automobile, de continuer l'industrie dont l'économie de guerre à la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Exactement, parce qu'on a augmenté la production environ 10 fois dans tout le pays industrialisé pour construire des machines à guerre. Et après, on a vu, alors on a cette capacité de production fou, mais maintenant on a la paix. Et si on diminue la production, qu'est-ce qu'on fait avec les ouvriers? On va le communisme demain parce qu'il y aura des grèves et tout ça. Ou on construit de nouveaux produits à consommation, comme la voiture, comme la cuisine moderne, disons, et comme beaucoup d'autres produits où il n'y avait pas de besoin avant. Et c'était vraiment une façon de maintenir le capitalisme à une époque où il était vraiment menacé par des autres systèmes de société comme le communisme. Et pour maintenir cette échelle de production, pour aussi maintenir le capitalisme et que la classe de propriétaires capitalistes peuvent gagner, mais aussi peuvent donner une façon de privilège comme chacun a une voiture maintenant à tous les gens.
Mais on aurait pu avoir un autre avenir, on aurait pu penser la voiture, bon, c'est quand même assez pratique, hein, sur bien des aspects. Et puis, on aurait pu effectivement faire de la Land Rover, ou du moins la voiture tout-terrain, qui était moitié tracteur, moitié voiture, l'objectif. Puis, on a préféré choisir la voiture de course qui allait vite et qui, bon, ne servait pas forcément à grand-chose. Mais on aurait pu avoir un autre modèle. Est-ce qu'à cette époque-là, il y avait des gens qui essayaient de penser autrement ce rapport entre la société et la voiture, ou est-ce que ça a été un non-pensé, ça s'est fait un petit peu dans l'absence de raisonnement
C'est une question difficile à répondre, mais oui, il y en a. En effet, la voiture électrique, à la départ de l'invention de voiture, il y avait plus de voitures électriques que de voitures de
combustion. Oui, mais ça ne change pas grand-chose à l'affaire.
Non, ça change en fait beaucoup, parce que c'était plutôt une voiture sociale, parce que le maximum de distance des batteries à cette époque-là ont été 30 km. Alors, c'était plutôt utilisé comme une taxi communal de mener les gens au gare, de la campagne et tout ça. Et ce n'était pas une voiture individuelle que tu descends dans ton maison et tu vas directement 400 km à un autre lieu, individuellement, toute seule. Mais c'était plutôt une façon de mobilité qu'on ajoute à le système ferroviaire existant, en
D'accord.
fait. Et ça, c'est vraiment une différence grave, parce que après la Deuxième Guerre mondiale, on a effectivement détruit notre système de ferroviaire partout, en fait. c'est moins qu'avant, en fait, dans tous les pays d'Europe.
Donc, on aurait pu avoir un autre modèle d'utilisation de la voiture. La jamais contente en France, c'était la voiture électrique emblématique. Mais donc, ça aurait pu changer l'avenir. On aurait pu. Alors, par contre, on aurait eu quand même un effet sur la mondialisation avec l'industrie du pneumatique. Ça aurait été moins fort si c'était plus collectif, c'est ça que tu nous dis.
C'est une spéculation, clairement, parce qu'on a vécu une société aussi une époque capitaliste et la force capitaliste est définie par celui qui a l'argent, en fait. C'était des hommes bourgeois. Et moi, j'ai décrit dans mon livre que la classe bourgeoise a vraiment eu ce désir de se distancer du peuple, de prendre le train avec tous les autres gens, aussi les travailleurs, tout le peuple du reste, mais que c'est vraiment un désir d'indépendance du société.
D'accord, qui est donc la voiture est une forme de ségrégation, quoi.
Oui,
de se distancier de la masse.
Oui, et comme c'était les bourgeois masculins qui ont un peu défini qu'est-ce qu'on veut acheter, et alors clairement le marché répond à demande, c'était cette voiture qui était construite. Et alors, j'ai fait une étude aussi, c'est pas dans la traduction, mais c'est dans le livre allemand, qui est plus large que ça.
Nous, on a la version...
Ça, c'est la version courte de 150 pages.
Qui est quand même publiée aux éditions...
World Project.
Voilà, vaut mieux que ce soit toi qui le dise que moi, Ben. Il faut le rappeler, parce qu'effectivement, c'est un jeune éditeur, c'est un éditeur assez récent, que je trouve assez courageux.
Il est à Marseille, non?
Oui, c'est ça,
en Marseille, plus. Ils font vraiment une programmation super cool de théorie écolo, bio-régionaliste. Je vous vraiment conseille de regarder tous les programmes. Aussi, le livre qu'on vient de parler, de Le Grand Paris après l'effondrement, c'est aussi dans la même édition.
D'accord.
Ils font vraiment de bonnes choses.
Voilà. Bon. Donc, alors il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Bon, on arrive vers la fin de l'émission, vers la fin de cette conversation. Tu es notre premier invité de germanophone. Je suis très
impressionné.
Très impressionné.
Je m'excuse pour les fautes que j'ai faites.
Elles sont adorables.
Merci la vitesse.
J'adore les fautes de langue faites par des gens qui font l'effort de parler français. Et bon, moi, ce talent, parce que moi, qui suis un handicapé linguistique, j'ai vécu quelques temps en Allemagne et j'arrivais en Allemagne, je ne savais pas parler allemand, je suis revenu en France, je ne savais plus parler français, mais toujours pas allemand. Bon, ça, c'est pour la blague. Donc, peut-être que tu vas peut-être nous dire tu parlais. Tu allais faire un cycle de conférences, c'est bien ça?
Oui, fais quelques présentations de livres, en fait. Je peux vous annoncer où ça.
Annonce-nous les villes.
Alors, c'est à Dijon, dans le quartier libre de l'Antillière, le 4 février.
C'est dans 3 jours.
C'est dans 3 jours, ouais, oui.
C'est aujourd'hui, donc, mais il faut que tu te dépêches.
C'est aujourd'hui, alors, il faut y aller. Demain, le 5 février, c'est à Lyon, dans la librairie Archipel.
Archipel.
Le 20 février à Gap, dans la librairie La Loupiote.
D'accord, La Loupiote, c'est une petite lumière, La Loupiote.
Ok. Et le 27 février à Forcalquier, la bibliothèque écoféministe Agathe et Salamandre.
D'accord. À Forcalquier, quelle date? J'ai mal...
Le 27.
Le 27 février.
Oui. Bon, en juillet, j'essaierai aussi pour présenter les livres à plus large échelle dans le festival Machine dans le Machine dans le Jardin dans la Bretagne.
Bon, écoute, c'est parfait. En fait, t'as bien choisi tes villes. En fait, c'est largement axé sur la vallée du Rhône.
Et c'est quoi le prochain thème que tu veux développer? Maintenant que tu as fini plus ou moins de faire le tour...
De la bagnole.
J'avais déjà publié un livre sur le ZAD Notre-Dame, tout le ZAD, et je veux... à traduire aussi en français, parce que je crois que c'est assez intéressant de penser la ZAD comme vraiment un concept de réforme radicale de notre statu quo, où on sait qu'on est dans la collapse écologique et on ne sait rien faire. Et je crois que cette façon de se réapproprier de moyens de subsistance, c'est vraiment intéressant pour aussi une façon de nouveau socialisme, presque.
Eh bien, écoute, ça nous donnera l'occasion de te réinviter pour connaître aussi tes méthodes de travail et de recherche. Bon, il nous reste à annoncer Voilà, je vais faire une petite annonce pour Jazzland qui samedi, Jazzland, ça passe le samedi sur Aligre FM de 17 à 18h avec Jean-Marc Gelin. Et cette semaine, ce sera, il a choisi de faire un focus sur les arrangeurs, en fait, sur les, tous ces gens du son, ces techniciens du son qui vont colorier la musique. Donc c'est un métier un peu mystérieux, mais qui doit bientôt se rapprocher de celui d'Armand, que je remercie pour l'excellence de sa programmation, de sa gestion des boutons de la régie. Donc ben voilà, la semaine prochaine, ce sera une émission sur la pollution du cerveau par les plastiques, donc avec un livre d'Yves Lers, un ancien grand reporter de l'AFP qui a fait un tour du monde des labos scientifiques pour nous alerter sur la montée du plastique jusqu'au cerveau. Bon, bah écoutez, bonne semaine à tous. Vous étiez dans les arènes de l'écologie sur Aligre FM et on vous retrouve la semaine prochaine, mercredi, donc ce sera le 11 de 19h à 20h. Bonne semaine à tous.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.